أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. اللهم بصرنا بعيوبنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, comme il a été précisé dans l'annonce qui était un petit peu en retard, malheureusement, mais Inch'Allah, ça va être des cours réguliers. Donc, ça fait un moment que sur Aslama, on avait l'habitude de donner des cours comme ça de temps en temps audio, mais on aurait préféré, Inch'Allah, que ça va être des cours en direct. À la fin, Inch'Allah, on vous donnera la possibilité, 10 minutes, quelque chose comme ça, de poser des questions qui concernent le cours, bien sûr. Donc ça va être, on va essayer d'être, Inch'Allah, régulier sur ce cours-là de la Aqidah Tahawiyah de l'imam Tahawi, rahmallahu ta'ala, qui concerne la croyance. Et si c'est possible, on verra plus tard sur les questions de la jurisprudence, Inch'Allah ta'ala. Ça sera chaque jeudi, on va voir l'heure, Inch'Allah. De toute façon, vous serez, je serai prévenu s'il n'y a pas cours. Donc on va essayer de garder ce temps-là. Juste après Salat al-Maghrib, Inch'Allah ta'ala. Donc ce cours de croyance et Salat al-Maghrib va se concentrer sur l'ouvrage de l'imam al-Tahawi, rahmallahu ta'ala. Et je vais parler sur, bien sûr, comme on avait l'habitude, à chaque fois qu'on étudie un ouvrage, bien sûr, il faut parler un petit peu de celui qui a écrit l'ouvrage. D'accord? L'imam al-Tahawi, rahmallahu. J'ai choisi exprès le maître de l'imam Tahawi pour parler de la croyance, parce que malheureusement, injustement, ce livre-là, il a été, on va dire, utilisé de façon, on va dire, c'est de la contrefaçon par les wahhabis, ceux qui se disent salafis. Ils se sont, on va dire, entre guillemets, accaparé cet ouvrage afin de lui donner des sens loin du vrai sens que voulait lui donner l'imam Tahawi, rahmallahu ta'ala, avec l'argent de pétrodollars qu'ils ont. Donc ils ont publié cet ouvrage avec leurs commentaires, que ce soit celui de Ibn Abi al-Aziz al-Hanafi, avec le commentaire de Albani, avec les commentaires de Mu'taymin, et j'en passe. Donc ils sont une dizaine à peu près à avoir essayé de commenter, ou bien faire les commentaires, etc. Tout en soulignant que le célèbre, on dit célèbre, bien sûr, commentaire d'Ibn Abi al-Aziz al-Hanafi, il n'est ni Hanafi ni rien du tout. C'est un anthropomorphiste qui a été emprisonné parce qu'il a, à l'époque où les sunnites avaient le pouvoir, à l'époque où les catécoles régnaient, il n'a rien à voir avec la croyance purement sunnite des catécoles, ni avec le fiqh Hanafi. Donc il avait tellement de positions contraires aux catécoles qu'il était en prison, tout comme Ibn Taymiyyah, rahmallah, jami'a. Alors avant de commencer de parler de l'imam al-Tahawi, je fais une petite introduction sur la question de la croyance. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour une seule chose, afin de l'adorer. « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Je n'ai créé l'ins et les djinns que pour m'adorer. Donc Allah ne veut rien du tout de nous. À chaque fois que l'humanité dérape du chemin de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui envoie un prophète pour remettre l'humanité, ou bien un peuple, ou bien une tribu, sur les rails du tawhid. Le premier prophète qui a été envoyé, c'est Sayyidina Adam, il a été envoyé à qui? À ses enfants. Pour leur apprendre la bonne croyance et la façon dont ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la jurisprudence. Il faut retenir à ce point-là que chaque prophète avait une jurisprudence spécifique à lui, je dis bien les messagers, pas des messagers. Il y a 315, selon les versions, 315-314 messagers, et 124 000 prophètes. La différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager ramène avec lui un message, des écritures, des livres, des feuilles, des feuillets. Par contre, le prophète ne ramène pas avec lui un livre, tout messager est un prophète, et ce n'est pas tous les prophètes qui sont des messagers. Donc un prophète, son rôle, c'est de venir confirmer la croyance qui existait chez un messager qui l'a précédé, ou bien qui est en son temps à lui. Il peut avoir une jurisprudence spécifique à lui et à sa famille seulement. Donc, il reçoit la révélation, mais il n'a pas de livre. Le livre, c'est le messager. Le messager est cité par Al-Karim, bien sûr, ils sont de nombre de 25. On traitera, Inch'Allah, le moment venu, la question des messagers. Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour dire qu'Allah Azzawajal nous a envoyé des messagers pour nous apprendre la bonne croyance. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première créature. On ne peut pas dire que Sidna Rasulullah, c'est la dernière, le dernier des prophètes. C'est le dernier qui a reçu le message pour que sa jurisprudence, pour que le Coran Karim, pour que la religion musulmane soit abrogeante. On va abroger toutes les religions qui nous ont précédées. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, « Kuntu nabiyan » Adam au bain atteint les walma. J'étais déjà prophète. C'est Adam, il était entre l'argile et l'eau. Il n'a pas encore été créé. Donc à partir de là, nous allons comprendre que, comme dit Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plutôt comme dit Sidna Adam quand il a demandé à Allah Azzawajal le pardon du péché qu'il a commis quand il lui a ordonné de ne pas manger de l'arbre. Les anges ont demandé à Sidna Adam, comment as-tu demandé à Allah Azzawajal, comment, parce qu'il a demandé à Allah Azzawajal de lui pardonner, parce qu'il a mangé de l'arbre, il lui a demandé par quelle créature, et Allah, je te demande par Muhammad de me pardonner. Les anges lui ont dit, comment as-tu connu Muhammad, il n'est pas encore créé, mais en tant que prophète, il a été déjà créé. Il a dit, j'ai vu écrit devant le nom d'Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sur le trône, et Allah ne mettra jamais un nom devant le sien si cette créature n'a pas une grande importance. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, tu as raison, Adam, et je t'ai créé pour lui. C'est à cause de lui que je t'ai créé. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Imam Ibn Jawzi dans le Wafa fi Ahwal al-Mustafa. Alors tenez-vous bien, il est rapporté par Ibn Taymiyyah dans deux versions, dans le Fatawa al-Kubra, et il est rapporté par d'autres Huffaz. Donc c'est un hadith minimum, il est bon, parce qu'il a plusieurs chaînes qui se renforcent. Tout ça pour dire que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était déjà prophète avant même la création de Sayyidina Adam. Donc c'est comme si vous avez un cercle ou un point, le début du point, et quand vous terminez le cercle en tournant, ça, vous revenez au même point. Donc le début et la fin, c'est Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam on ne peut avoir la foi complète, la vraie foi, sans avoir le grand amour à Sidna Rasulullah. Et on ne peut connaître Sidna Rasulullah et l'aimer sans connaître sa sira. Et sans faire énormément, beaucoup de salat à la Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Sidna Omar, est-ce que Omar, tu m'aimes plus que toute chose dans ce monde? Il a dit à Rasulullah, je t'aime plus que toute chose dans ce monde, sauf moi-même. Il lui a dit, ta foi n'est pas encore complète, ya Omar. Le jour où il lui a dit, immédiatement, il lui a dit, ya Rasulullah, je t'aime plus que toute chose, même plus que moi-même, il lui a dit, al-an, ya Omar. Maintenant, ya Omar, ta foi, elle est devenue complète. Donc, il faut que nous aimions, c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute chose, plus que nous-mêmes. Cet univers a été créé pour lui. Toute chose a été créée pour Sidna Rasulullah. Les gens, ils vont dire, c'est quoi ça, c'est bid'a, c'est chip, c'est quoi, ça y est, il est mort, il est fini. C'est eux les morts vivants. C'est eux qui n'ont rien compris de la valeur de Sidna Rasulullah. Même le diamant, c'est une pierre. Mais est-ce que c'est une pierre comme toutes les pierres? Pas du tout. Muhammadun basharun la kal bashar. Muhammadun jawharatun bayna al-hajar. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. On ne peut adorer Allah Azza wa Jal sans le connaître. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation, ainsi comme tous les autres prophètes, il explique les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous devons lui attribuer, ce que nous n'avons pas le droit de lui attribuer, le monde de l'au-delà, al-jannah, al-nar, al-sirat, al-mizan, le jugement dernier, etc. nous devons attribuer au prophète ce que nous n'avons pas le droit de leur attribuer, ainsi que le rôle de l'être humain sur cette terre. Parmi les savants qui ont expliqué la croyance musulmane, on a un ouvrage, un des grands ouvrages très intéressants, celui de l'imam al-Tahawi. Alors, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de propager une idéologie, à savoir le wahhabisme ou le salafisme, comme vous voulez, en disant, voilà, ça c'est l'œuvre de l'imam Tahawi, mais malheureusement, ce qui est propagé, c'est les commentaires de ceux qui surtout les contemporains, parce que les anciens, la majorité des commentaires anciens, on va vous les exposer, Inch'Allah, sur Aslama, ils n'existent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas publiés, sauf celui dont je me base, celui de l'imam al-Maydani, Cheikh al-Maydani, rahmallahu ta'ala, qui est un des grands savants de Syrie, de Dimash. Allah Azza wa Jal, Yafuka Asraha, Jahid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Yahpina Dima al-Muslimina fiha. C'est un ouvrage très intéressant. Alors, vous avez d'autres commentaires. Faites attention aux commentaires d'Ibn Abil Aziz Hanafi, qui est à côté de la plaque, de ce que, vraiment, bah, au contraire de ce qu'a dit l'imam Tahawi. Comme on va le prouver, Inch'Allah, puisque nous avançons, nous allons le prouver comme on l'a toujours prouvé sur Aslama. Et comme vous voyez, on a sur Aslama, au passage, j'attire votre attention que nous assistons ces derniers temps à des attaques. Des petits bricoleurs de la science qui essayent de nous attaquer sur la question de l'istirata ou bien de tawassul, etc. Et nous n'avons pas le temps de répondre tous les jours. On n'est pas comme eux, toujours derrière leur écran à écrire n'importe quoi. Or, nous avons beaucoup de tâches ailleurs. Donc, quand on a le temps, on répond et nous sommes responsables devant Allah Azza wa Jal. Si on supprime des postes, c'est parce qu'on a vu que ces gens-là méritent d'être supprimés et que des gens viennent nous dire attention, non, ils étaient respectueux. Vous ne savez pas ce qui. C'est-à-dire, nous, on connaît beaucoup de choses, on est les responsables principaux. On a les IP des gens, on connaît leur historique, on connaît ce qu'ils postent. Avant-hier, on a posté quelque chose à 3h, on a supprimé quelqu'un qui a posté quelque chose à 3h du matin, on l'a supprimé. Donc on n'a pas à donner à chaque fois des commentaires. Oui, ça va. L'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, comme beaucoup de savants qui l'ont précédé, ceux qui sont parvenus après lui, a écrit cet ouvrage-là qui a pris son nom, al-Tahawi. Et avant cela, je voudrais faire un petit bref sur la vie de l'imam Tahawi, rahmallahu ta'ala. Donc l'imam Tahawi, Abu Ja'far Ahmed ibn Muhammad ibn Salama ibn Salma ibn Abdel Malik al-Hajri al-Azdi. Donc il a écrit beaucoup d'ouvrages. Donc pourquoi Tahawi? Parce que c'est un misba, c'est-à-dire à l'origine il habitait dans un village de Taha, un Saïd d'Égypte. Donc il est né en l'an 239 de l'Égypte. Donc, bien sûr, dès son jeune âge, il a commencé à apprendre le fadlu yarja'u li walidayhi, surtout sa mère, elle était une faqiha wa alima. Il a appris chez sa maman et son père aussi. Son père, c'était un grand spécialiste de la langue arabe, surtout de la littérature. Il a beaucoup appris de son oncle, côté maternel, le frère de sa sœur, l'imam al-Muzani, rahmallahu ta'ala, qui était un très proche de l'imam Shafi'i, un des grands Shafi'ites. Donc nous comprenons que l'imam al-Tahawi, tout au début, il était Shafi'ite. Mais un jour, son oncle lui a dit quelque chose, un mot qui l'a blessé, il lui a dit « Toi, tu ne connais pas, ou tu n'apprends pas, ou il n'y aura pas de khayr qui vient de toi. » Ça l'a blessé, il a changé de madhhab quand il est parti, parce qu'il a... Il est allé apprendre, ensuite il a voyagé vers, il est égyptien, mais il est parti vers Damas, il est parti vers Asfalam, du côté de Palestine, donc il a appris chez les Hanaf, et il est devenu Hanaf. Voilà. Donc sa famille, donc il est élevé dans une famille de ilm, de science. Donc il a rejoint un grand savant qui s'appelle l'imam Zakaria ibn Yahya ibn Mohammed ibn Amrous. Il a appris dès son jeune âge le Coran Karim, ainsi que les principes de Shafi'i. Il a appris aussi de son oncle, bien sûr, l'imam Mouzani, il a appris lui les sunan, le musnad de l'imam Shafi'i. Donc il rapporte hadith, par chaîne de transmission, de l'imam Shafi'i. Au passage, on entend malheureusement des choses qui font mal aujourd'hui, des gens qui refusent, qui disent que l'imam Abu Hanifa n'a pas un grand niveau de conscience du hadith de l'imam Shafi'i. Je dis à ces gens-là, Allah, ce sont des sommités que l'histoire de l'humanité n'a pas connues, que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la science. Donc c'était l'époque de l'imam Tahawi, c'était l'époque abbasside. Et c'était une époque où le monde musulman, c'était pas un moment où c'était, il y avait une grande instabilité politique. Alors, parmi, on va dire, ces chouyours, l'imam Tahawi a rencontré, donc il a rencontré beaucoup de chouyours, mais nous allons citer quelques-uns comme j'ai commencé à citer. Donc il y avait son oncle, ensuite il y avait l'imam Abu Ja'far ibn Abi Amran al-Hanafi, ensuite on a surtout le qadi Abu Hazim, rahimahullah ta'ala. Donc voilà, j'ai cité quelques-uns, sinon l'imam Tahawi. Il a aussi reçu son père, Mohamed Ibn Salama, etc., etc. Vous allez trouver cela si Ibn Khalikan, dans l'Waqiyat, il a écrit sur lui. Il a voyagé l'essentiel, l'imam Tahawi, rahmallahu ta'ala, donc d'Égypte vers Damas, il a rencontré, ou Asqalan, ou bien Palestine, il a rencontré beaucoup de comme beaucoup de gens de science qui voyagent, bien sûr. Et ça, c'était vers les 268 de l'Égypte. Ouais. Il a rencontré aussi l'imam Abdelhamid ibn Ja'far de Asqalan. Alors, parmi les chouyours qui ont pris de lui, donc, on a des ulamas qui ont pris il a pris aussi l'imam Tahawi, il a appris de Ahmed ibn Abi Amran al-Qadi, il a appris aussi de Ishaq ibn Ibrahim ibn Yunus al-Baghdadi, il a appris de Ahmed ibn Abi Amran, il a appris de ça, il a appris aussi de l'imam al-Nasa'i, celui qui a écrit les Sunan, il a appris de Bahd ibn Nasr ibn Sabr al-Khawlani, etc. Il avait beaucoup d'élèves, parmi ses élèves, Ahmed ibn Ibrahim ibn Hamad, le grand qadi d'Égypte, Ahmed ibn Mohammed ibn Mansour, l'Ansari d'Amrani, des Qubats, les grands Qubats, je cite que les grands Qubats, sinon il y avait beaucoup d'élèves, Abdurrahman ibn Ahmed ibn Yunus, le grand historien, Suleiman ibn Ahmed ibn Ayyub al-Tabarani, Sahib al-Ma'ajim, celui l'imam al-Tabarani, le Sahib al-Imam al-Tabarani, aussi parmi ses élèves, Abdullah ibn Ali ibn Abdullah al-Jurjani, et Abu Ahmed, un des grands spécialistes de la science de Jahoudan. Alors, parce qu'il a écrit des ouvrages, il a énormément écrit d'ouvrages, malheureusement, un nombre important, plus de 20, environ 25, 28 ouvrages, les mêmes Tahawi sont perdus, comme vous le savez. Alors, parmi les ouvrages, on a Ahkam al-Qur'an, qui est un tafsir, qui traite que des versets de la jurisprudence, apparemment ce ouvrage-là, on ne sait pas s'il existe toujours. Il y a un manuscrit, je pense qu'il est du côté de la Turquie. Il a un livre qui s'appelle Ikhtilaf al-Ulama, Divergence entre les savants. Bon, c'est un grand ouvrage de plusieurs tomes. Il parle de divergence entre les ulama. L'imam al-Jassas, il a résumé ce grand ouvrage. Il a un livre très intéressant qui s'appelle Tesouya Baina Haddathana wa Akhbarana. Donc, c'est un petit livre dans la science du hadith. Al-Jami' al-Kabir al-Shurud, c'est un ouvrage, cet ouvrage-là, le manuscrit, il est à Berlin. Il a Sharh Ma'an al-Afar. Ça, c'est un très, très, très grand ouvrage. Très très bon ouvrage. Et bien sûr, le célèbre Al-Aqidah al-Tahawiyya, Bayan Mu'taqadi Ahli Sunnah wa Jama'a, c'est comme ça, c'est le livre. Il a Mushkil al-Afar fi Ikhtilaf al-Hadith dans cet ouvrage-là, c'est un ouvrage de hadith, il est très prophète sallallahu alayhi wa sallam qui porte ambiguïté. Ce qui est intéressant, c'est que le hadith qui parle de la lassitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit dans ce hadith-là que l'imam al-Tahawi lui donne l'interprétation que les salafis rend égaré celui qui donne ce genre d'interprétation. Comme vous le savez, les wahhabis considèrent que la lassitude fait partie des attributs d'Allah, qu'Allah les guide. L'imam Tahawi les contredit de façon incroyable dans cet ouvrage-là, qu'on va traiter bien sûr au passage. Alors, la position du ulama, ben, les ulama, ils ont parlé que du bien de l'imam Tahawi, rahmallahu ta'ala. L'imam Ibn Yunus, rahmallahu, dans son ouvrage Tariq al-Ulama, mais c'est l'histoire des savants d'Égypte, il dit كان الإمام الطحاوي ثقة ثبتا, c'est quelqu'un de fiable, c'est un faqih, grand savant. L'imam Ibn Nadim, يقول كان من أعلم الناس بسير الكوفيين, c'était un grand savant, qui connaissait les biographies des savants de Koufa, du côté de Bagdad, et de leur histoire, et de leur fiqh, etc. L'imam Ibn al-Athir, le grand historien, il dit de lui, dans son ouvrage Loubab, كان إماما في الفقه, c'est un grand faqih hanafi, fiqh. L'imam al-Dhahabi, vous connaissez tous l'imam al-Dhahabi, dans son siyar Alam Nubal, il dit de lui, muhaddith al-diyar al-misriya wa faqih, le grand savant du hadith d'Égypte, le grand faqih. L'imam Ibn Kathir, célèbre Ibn Kathir, dit de lui, al-faqih al-hanafi, le grand faqih hanafi, celui qui a écrit beaucoup d'ouvrages, والفوائد الغزيرة très bénéfique, وهو أحد الثقة الأثبات, c'est un grand savant fiable. Ibn Tagribardi, il dit de lui, imam Asres, le grand imam de son époque, etc., etc., et j'en passe. Alors, beaucoup de savants ont parlé de l'imam Tahawi, donc c'est une sorte, et d'ailleurs, son ouvrage, la preuve, aujourd'hui, après des siècles, on étudie son ouvrage. Donc, rahmallahu ta'ala, il est mort en nom de donc 321, si vous remarquez, c'est une date, on va dire, très approximative avec la mort, coïncide un petit peu avec la mort de il est mort à l'âge de 82 ans. Ça coïncide un petit peu avec la mort de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, et pas loin de la mort de l'imam Abu Mansour al-Maturidi. Abu Mansour al-Maturidi, rahmallahu ta'ala, il a résumé, on va dire, la croyance de l'imam Abu Hanifa, ainsi que celle de l'imam al-Tahawi, qu'on va voir dans l'introduction, parce que l'imam al-Tahawi, dans l'introduction, il dit, ça c'est la croyance que je vois, que j'ai résumée, que j'ai reçue, puisqu'il suit l'imam Abu Hanifa dans la jurisprudence, donc il a essayé de rassembler la croyance sunnite, bien sûr, l'imam Abu Hanifa ne diverge pas de la croyance d'Imam Malik, ni Shafi'i, ni d'Imam Ahmed, Ahmadullah, Jami'a. Mais la méthodologie et la façon de comprendre et de défendre la croyance divergent d'un savant à un autre, mais le contenu, le fond, il est le même. C'est pour cela qu'on va voir que les trois grandes écoles, à savoir l'école Shafi'ite, l'école Malikite et l'école Hanbalite, ont suivi l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc c'est des Ash'arites, sauf une petite minorité Shafi'ite qui est devenue Mu'tazilite, une minorité infime, et une toute petite minorité aussi Hanbalite qui sont devenues des anthropomorphistes, qui ont été recrutés bien sûr par les grands imams de l'école Hanbalite, tels que l'imam Ibn al-Jawzi dans son ouvrage Dafa' Shubhat Tashbih et Akufi Tanzih, et les autres grands savants de l'école Hanbalite aussi, qui ont recruté c'est ceux qui ont dérapé de l'école, c'est-à-dire les suivistes de Bétaïmia, Albani, Rufaïmi, etc. etc. Bien sûr, notre position vis-à-vis de ce courant-là reste contraire. La divergence, nous, on la considère toujours scientifique, bien qu'eux, ils nous considèrent comme des égarés, des coupables, des bouchers, tout ce que vous voulez. Mais on est au-dessus de tout ça, ils restent nos frères. Mais la divergence, et on ne peut pas laisser les choses passer et dire que ce que a ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de scientifique, c'est-à-dire de correct. Parce que on est en train de remettre mettre en cause toute une histoire de 14 siècles, quatre écoles qui ont structuré la croyance et la jurisprudence musulmane pendant des siècles, historiquement, et géographiquement, vous allez du Maroc, de Tanja jusqu'à Jakarta, du Maroc jusqu'en Inde, et de la Turquie, hein, jusqu'au fond de l'Afrique, tout régie par les quatre écoles. Vous allez au Mali, Sénégal, Tombouctou, en Turquie, Palestine, Inde, Pakistan, Maroc, Algérie, Tunisie, tout ce que vous voulez. Il y a même tout ça, c'était l'école Ash'arite ou l'école Maturidite dans la croyance. Et dans le fait, c'était les quatre écoles. Donc ce n'est que, ça fait 50-60 ans qu'on voit qu'un petit peu le wahhabisme, bien sûr avec le pétrodollar, essaye de demander le marché avec ses ouvrages, les sites internet, les chaînes satellitaires. C'est pas parce qu'ils ont... Ils ont ces moyens-là qui sont nombreux. Au contraire, la majorité de la Oumma, 99%, ce sont des sunnites qui appartiennent aux quatre écoles. Mais comme ils ont les moyens, que ce soit satellitaire ou bien des publications, des livres gratuits, hein, vous avez Sharh Tahawiya, dont j'ai parlé au début, vous avez trouvé plusieurs éditions, maintenant même les traductions, etc. Et je dis Inna lil batil ila jawla wa inna lil haqq ila sawla al haqq. Il a un mort au-dessus de lui, et il finira par l'emporter, il finira par jaillir. Donc, les sunnites, ils ont toujours travaillé avec sincérité, avec science, avec objectivité, avec sagesse. Et les sectes égarées ont toujours travaillé en s'appuyant sur soit le pouvoir politique ou l'argent. Les Mu'tazilites avaient beaucoup plus de science que les Wahhabites, mais ils avaient même le pouvoir, hein. Mais ils n'ont pas pu résister aux attaques sunnites des élèves de l'imam Abul Hassan Ash'ari jusqu'au 4e, 5e siècle. Donc ce n'est qu'un passage, hein, les wahhabismes aujourd'hui, ça va partir, ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas dormir, il faut que les frères et sœurs s'attachent et essayent de comprendre et apprendre. N'utilisez pas Internet comme un moyen de distraction, non, utilisez-le comme un moyen de science. Venez apprendre, vous avez des choses très intéressantes, très importantes, et que des gens se fatiguent énormément pour vous les apporter sur Islama. Essayez d'apprendre et d'assister aux cours et de réviser. Vous avez des cours écrits, vous avez des cours audio. Ce sont des choses qui sont enseignées, ces cours-là, ce sont identiques à ce qui est enseigné dans le monde musulman. Que ce soit au Taraouyeh au Maroc, Zaytouna en Tunisie, l'Azhar en Égypte, ou bien Dabawan en Inde, donc dans tout le monde musulman, bien sûr, à part en Arabie Saoudite, mais bien, même en Arabie Saoudite, vous avez quelques ulama, quelques chouyours qui enseignent chez eux, ou bien dans la grande Zawiya, la grande madrasa de Sidi Mohamed Al-Alawi Al-Maliki, dont on rapporte, alhamdulillah, par chaîne de transmission, tous ces ouvrages, on a eu des ijazat de ces élèves directs. Pour ceux qui remettent en cause mes ijazat, donc un jour, Inch'Allah, on va les exposer, mais tant qu'on n'a pas reçu d'autorisation de nos chouyours, nous, on ne fait pas des choses de nos têtes. Les chouyours m'ont dit, tu restes dans la discrétion, tu n'as pas à être exposé, donc je reste dans la discrétion, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour parler de nous-mêmes, on est là pour exposer à la science qu'on a pris de nos chouyours, puisque nous avançons par des chaînes de transmission authentiques. Ainsi, cet ouvrage-là, que je suis en train de commenter, je le rapporte par trois chaînes de transmission jusqu'à l'imam Tahawi, rahmatullahi alayh. Maintenant, on va passer, Inch'Allah, à parler de l'ouvrage lui-même, de l'imam Tahawi, rahmatullahi alayh. Je vais commencer, Inch'Allah, par le livre. Donc, comme vous le savez, l'imam Tahawi, rahmatullahi alayh, il a commencé par la basmala. قوله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وكلا سوي القرآن الكريم أنه أن القرآن الكريم ابتدأ بالبسم الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عمل ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم في رواية بالحمد لله فهو أجدم وفي رواية أكثر بمعنى قليل البركة صديق. Tout acte qui ne commence pas par Bismillah, qui ne commence pas par Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah, Salaam Salaam Rasulullah. Donc c'est un acte qui est diminué de baraka, il n'ira pas très loin. Donc j'invite tous les frères et sœurs à prendre conscience qu'il faut toujours commencer par Bismillah dans tous nos actes. قال الإمام رحمة الله عليه الإمام الضحوي نفعنا الله بعلمه وزادنا بركة من بركاته. هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان انتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب قائل الملة. الإمام الطحاوي nous rapporte donc cette croyance selon l'arrêt de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à la madhhab al-Fuqaha al-Millah selon l'école juridique de l'imam Abi Hanif al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansar wa Abi Abdillah Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Donc les deux grands imams Abu Yusuf et Abu Abdillah Muhammad al-Hassan al-Shaybani, ce sont deux grandes sommités de l'école Hanafite, ce sont des élèves de l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam Tahawi dès le départ nous dit j'appartiens à cette école là dans la jurisprudence, donc je vais vous apporter la croyance que j'ai appris dans mon école, bien sûr qui ne diverge pas de l'école Ash'arite, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf dans les cas très particuliers, dans les cas terminologiques, bien sûr l'imam Abu Mansour al-Maturidi qui a résumé et on va dire théorisé la croyance de l'école Hanafite, la façon d'apprendre et de comprendre et de défendre, diverge sur quelques points, 11 ou 12 ou 13 points, avec la croyance ash'arite, mais c'est une divergence dans la définition. Ce n'est pas une divergence dans le fond. Donc, l'imam Tahawi, donc après lui, il y avait l'imam Abu Mansour al-Maturidi, qui a vécu du côté de l'Asie centrale, et l'imam ash'ari, il a vécu du côté de Bagdad. Donc, ce sont deux grands imams qui ont, on va dire, cadré la croyance sunnite. Ils lui ont donné une méthodologie de compréhension, une façon de comprendre, afin de la faciliter au commun des gens, comme l'a fait l'imam Malik pour le fiqh, l'imam Shafiri, etc. Et comme l'ont fait les grands savants des lectures du Coran. Vous avez la lecture de Hafs, ou bien de Walsh, ou bien de Kathir, ou bien de Aloun, Qumbul, etc. Donc ces lectures-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces grands récitateurs, spécialistes des lectures du Coran, n'ont pas inventé des lectures. Donc ce sont des lectures qui sont venues des sahaba et des tabi'in. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a appris ces lectures-là. Donc ces lectures, toutes, elles viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi on a donné ces noms-là à ces lectures-là? Pourquoi on a donné la lecture de Habs? Pourquoi on a donné la lecture de Qumbul, Nukati, Walsh, Aloun? Parce que chaque savant, c'est lui qui a fait des règles de cette lecture qui était récitée avant pour la préserver. Donc elle a porté son nom. La même chose, l'imam Malik n'a pas inventé un fait. Au contraire, c'est le fait qu'il a reçu des gens de Médine, qui ont reçu des sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait des règles qui a donné une école, s'appelle l'école Malikite. Elle a porté son nom. La même chose pour l'imam Abu Mansour al-Maturidi, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Ils n'ont pas inventé une nouvelle aqida, pas du tout. C'est la aqida qu'ils ont reçue de leur chouyour, du chouyour, du chouyour, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont réglementée pour la préserver. Donc elle a pris leur nom. Aqida Ash'ariya, aqida Maturidiya, fiqh Maliki, fiqh Shafiri. Donc ces ulama, ils n'ont pas inventé un nouveau fiqh, ils n'ont pas inventé une nouvelle aqida. Si elles portent leur nom, c'est parce que c'est eux qui ont fait des règles pour la préserver, parce que c'est la aqida qu'ils ont reçue de leur chouyour, de chouyour, de chouyour, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre science, on n'apporte pas des CD, mais on l'apporte des CD, des asyad. Comme a dit le Seyyidina Abdullah ibn Mubarak, إنما الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. La transmission fait partie de cette religion, c'est pour ça qu'on essaye de vous transmettre cette science qu'on a appris de nos chouyours, de leurs chouyours, jusqu'à ce que Rasoulallah sallallahu alayhi wa sallam, par des chaînes de transmission authentiques. Cette parole de l'imam Abdullah ibn Mubarak, elle est rapportée par l'imam al-Nawawi dans l'introduction de Sahih, Sharh Sahih Muslim. Alors, l'imam al-Tahawi rahmallah nous dit que la croyance qui va nous exposer, c'est la croyance sunnite, c'est la croyance de l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, c'est la croyance de l'imam Malik, c'est la croyance des quatre écoles. Donc, tout ce qui sort des quatre écoles de la croyance sort du cadre sunnite. Parce que, comme le dit l'imam Subki, la Umma, elle a reconnu historiquement les quatre écoles, et tout ce qui sort des cadres des quatre écoles n'est plus sunnite. Historiquement, bien sûr, avant, il y avait plus de quatre écoles, mais quand comme ce sont des écoles qui n'ont pas été travaillées, donc elles sont disparues historiquement. Donc on ne peut pas aujourd'hui, quelqu'un qui peut prendre un ouvrage et appliquer la vie de l'imam Awza'i, ou bien de l'imam Ibn Uyayna, ou bien d'un autre imam Tabari, d'un grand savant de Mouchkel qui a atteint un degré très élevé dans la jurisprudence. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce sont des avis délaissés, sauf si ils ont été rapportés par une grande sommité dans le sens de faire comme l'imam Malik, etc. Donc, on ne suit pas l'imam Malik aveuglément, on suit l'école. Lui, il a fait la méthodologie, les bases, les règles. Mais dans une école, vous avez des centaines de milliers de savants. D'accord? Alors, il rajoute l'imam al-Tahawi rahmallah en disant « Le vent de Allah ta'ala alayhim, qu'Allah soit satisfait de « وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ » de ce qu'ils croient des fondements de la religion, de la croyance. « وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » de ce qu'ils croient dans leur croyance et que ce qu'ils adorent, comment ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. « ثُمَا يَقُولُ رَحْمَ اللَّهُ قَالَ الْإِمَامُ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامَانِ الْمَذْكُورَانِ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى » Donc il parle de l'imam, « قَالَ الْإِمَامِ » يعني l'imam Abu Hanifa, « وَقَالَ الْإِمَامِ الْإِمَامَانِ الْمَذْكُورَانِ » بِمَعْنَى الْإِمَامِ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ وَالْإِمَامُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي sont une grande sommité. Imam Abu Hanifa, il y a une grande injustice qui est faite par les Wahhabis contre ce grand imam. Regardez le fiqh Hanafi, subhanallah, aujourd'hui, c'est le plus propagé dans le monde musulman. Et l'Empire Ottoman, il a géré le monde, subhanallah, pendant des siècles, il a dominé le monde à partir du fiqh Hanafi. Donc il y avait toute une jurisprudence de l'administration, de la gestion financière, économique, militaire, etc. etc. Aujourd'hui, ces gens-là, subhanallah, ils n'ont rien lu de ce que a produit l'école Hanafi. Ils attaquent l'imam Abu Hanifa, subhanallah. Quelle audace. C'est l'homme, subhanallah, si ce n'était pas musulman, croyez-moi, on aurait écrit que c'est l'homme le plus intelligent dans l'histoire des humains, tellement Allah Azza wa Jalla lui a donné une intelligence exceptionnelle à ce grand imam, rahmatullah. Voilà, je suis maléfique et je parle comme ça de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah. هذا من فضل الله وهو إمامنا رحمة الله ثم قال الإمام الطحاوي رحمة الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى on dit dans la croyance توحيد الله معتقدين donc croyons بتوفيق الله avec l'aide d'Allah سبحانه وتعالى إن الله تعالى واحد لا شريك له sachez qu'Allah عز وجل واحد il est unique لا شريك له il n'a pas d'associé ولا شيء مثله Et rien ne lui ressemble. Quand on dit rien ne lui ressemble, ça me fait rire, moi, quand je vois les commentaires de l'Uthaymin sur l'Aqid al-Isfaraïniya, etc. Il dit, écoutez, quand Allah parle de la main, oui, il a une main, il faut croire qu'il a une main. Hein. Et, sauf que, il ne faut pas, entre la main de la fourmi et la main de l'éléphant, vous savez, on ne peut pas, subhanallah, tu parles de la main d'Allah, subhanallah, ta'ala, et tu fais. Subhanallah, une comparaison entre la main de la fourmi et la main de l'éléphant. Regardez ces gens-là où ils sont arrivés. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, ni dans son essence, ni dans ses actes, ni dans ses attributs. Kullu ma khatara bi dhalika fa Allah bi khilafi dhalika. Tout ce que tu imagines, c'est pas comme ça. D'ailleurs, il n'a pas de comment. Donc Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de méditer, de penser, de réfléchir sur ces attributs qui sont dans cet univers. Et en vous-même, vous ne réfléchissez pas. Regardez. Ne voit-il pas comment on a créé le chameau ? Regardez le ciel, comment on l'a élevé. Donc, Allah Azza nous renvoie à réfléchir, à découvrir sa science, sa sagesse, sa grandeur à travers ses créatures. Mais ne pas penser à son essence. Ces gens-là, ils croient qu'Allah Azza a une main réellement. Et c'est grave. C'est de l'anthropomorphisme. Donc l'imam al-Tahawi, dès le départ, il se décale de l'anthropomorphisme. Il est complètement dans la transcendance, il dit, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé, mais directement il dit, wa la shay'a mithlu, et rien ne lui ressemble. Quand il dit qu'Allah Azza wa Jalla, tu dis, il descend réellement. Donc l'avion aussi descend réellement. L'homme aussi, l'ascenseur, il descend réellement. C'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son ordre qu'on dit l'imam Malik qui descend. Quand on dit Allah, il a une main, déjà, il n'a pas dit il a une main, il a dit Yadullah. Donc, de traduire, c'est trahir, comme on dit, parce que le mot Yad en arabe, il a plusieurs sens, mais le mot main en français, il n'a pas plusieurs sens. Malgré que la métaphore existe aussi en français. Ensuite, quand on a une divergence sur une question, un texte coranique ou un hadith, billah alaykoum. Quand tu as un problème, ta voiture elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas. Est-ce que tu vas voir un boucher pour qu'il te règle le problème de mécanique? Tu as un problème dentaire. Est-ce que tu vas voir un mécanicien? Subhanallah. Il faut respecter la spécialité. On a un problème dans un texte, on a une divergence, venons voir ce que les spécialistes de tafsir, les grands savants qui ont fait l'exégèse, qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Qurtubi? Qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Tabari? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Abu Hayyan al-Tawhidi? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Suyuti? Regardons les grands spécialistes de tafsir. Il n'y a aucun savant du tafsir qui dit ce que disent les wahhabis aujourd'hui. Il faut savoir cela. C'est pour cela que vous ne les voyez jamais apporter un texte des savants des exégèses du Coran. Yadullah et Coran. Il dit, c'est-à-dire, la force d'Allah, la puissance d'Allah, elle est au-dessus de la puissance. Quand tu dis, le président est au-dessus du ministre, il l'a mis sur ses pieds, il est monté sur sa tête. Non, subhanallah, c'est de la métaphore. C'est-à-dire, il est au-dessus de lui, point de vue puissance, etc. Sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala rahmatullah alayhi. Wala shay ayu'jizuh. Il n'y a rien dont Allah Azza wa Jalla ne peut faire. Il peut tout faire, quand il veut, comme il veut. Wala ilaha ghayruh. Il n'y a aucune divinité en même. Allah. Qadimun bil ibtida. Il est éternel, sans début. Wal awwalu bil ibtida. Da'imun bil intiha. Il est le dernier sans fin. Wal awwal wal akhir. Donc toute chose a un début. Toute créature a un début. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Contrairement à Ibn Taymiyyah qui nous dit que les choses, dans leur genre, elles sont éternelles. Il dit la même parole que dit Ibn Sina, que dit le Farabi, que l'imam Ghazali a rendu de mécréant. Donc il faut faire très attention, il y a des dérapages graves dans la croyance du wahhabite. Bien sûr, ce détail d'Ibn Taymiyyah, ce n'est pas tous les wahhabites qui le partagent avec lui, mais il le couvre, mais il ne dévoile pas cette mauvaise croyance. Nous, quand on a quelqu'un des mauvaises croyances, on dit vous êtes dans l'erreur, c'est une faute, on ne le rend pas mécréant, pas du tout, on lui fait du doua, qu'Allah lui pardonne, etc. On reconnaît qu'il a donné beaucoup à la Oumma, que ce soit dans la science économique, etc. Mais les dérapages, ce sont des dérapages. On dit Imam Malik, kullun yukhadu min kalamihi wa yurad illa sahib al-qabr. Chaque alim, on peut prendre de lui et on ne peut pas prendre, sauf Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah dit que cet univers, il est éternel par son genre. Indirectement, pourquoi? Parce qu'il est dans l'embarras quand on lui parle de l'arche. Parce qu'il dit l'arche, Allah, il est au-dessus de l'arche, du passant réel, véridique. Alors on lui dit, et avant qu'il crée l'arche, il était où? S'il est au-dessus de l'arche réellement. Il était où? Allah subhanahu wa ta'ala, comme a parlé l'imam al-Bukhari, j'ai appris le hadith du Bukhari, كان الله ولا شيء معه. Il y avait Allah, il n'y avait rien avec lui. Et lui, والآن هو كما كان. Et Allah Azza wa Jal, actuellement, il est comme il était. Avant de créer les créatures, il est de la même façon. Et après avoir créé la créature, il ne change pas. Alors si Allah Azza wa Jal, on sait que c'est lui qui a créé le trône, indirectement, les wahhabites nous disent, il n'était pas sur le trône, mais une fois qu'il a créé le trône, il est devenu sur le trône. Donc il y a un changement. Et le changement, c'est une qualité de faiblesse. C'est la créature qui change, mais Allah Azza wa Jal ne change pas. C'est pour cela, pour sortir de ce piège, Ibn Taymiyyah dit, la créature, elle est éternelle par son genre. Indirectement, il nous dit, le arche, il est éternel par son genre. Donc, Allah, il était toujours au-dessus du arche. Pour comprendre pourquoi il a inventé ce... Il n'a pas inventé que ça. Il a 60, points où il a contredit le consensus. Hein, en disant, Allah, il est dans un endroit inexistant. Il n'a qu'un imadab. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas vraiment du cadre de la croyance. Donc, je vais me limiter, Inch'Allah, à ce point-là, parce qu'aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Nas'Allah Azza wa Jal, an yanfa'ana bima sami'na, wa yu'allimana, wa yaj'alana mu'minin, mutahabbin, mutawadi'in. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous donner de la science, de la modestie, du savoir, de la mahabba, de la connaissance. Nous aimons tous les musulmans, sans exception. Qu'ils soient wahhabi, pas wahhabi, on les aime tous comme ils sont. On espère, Inch'Allah, qu'ils reviennent vers le droit chemin. Notre main, on l'attend vers ces frères-là. Plus ils nous détestent, plus on les aime. Comme dit l'imam Hassan ibn al-Rahmallah, haribun nas bil-hub. Nous, on déclare la guerre aux gens par notre amour à eux. Plus ils nous détestent, plus on les aime. Tout ce que vous voyez sur l'islama, est le fruit d'un grand travail de beaucoup de frères et de sœurs qui se fatiguent énormément. Donc prenez-le avec honneur C'est quelque chose qui a une grande valeur, ne le sous-estimez pas. Tout ce qu'on vous enseigne, il est vérifié par les grands ulama. On travaille jour et nuit avec plus de 480 savants de l'Azhar, du monde entier. Le site Aslama, il est reconnu par les grands chouïurs du monde entier. Vous allez dans le site Azahira, vous allez voir qu'il est nommé site numéro 1 francophone sunnite dans le monde musulman. Vous allez le site Aslain, c'est la même chose. Donc c'est un site qui est en contact avec les grands ulama du monde musulman. Si on ne répond pas à une question, c'est qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas parce qu'une personne a écrit quelque chose qu'on n'a pas répondu 2 mois, 3 mois, comme Abou Laïla, je ne sais pas quoi, c'est qu'on n'a pas de réponse. Si on a des réponses à tout, alhamdulillah, ce n'est pas de nous, mais de nos chouyours qui nous donnent ce khayr. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je pense aujourd'hui il n'y aura pas de questions parce que le temps il est vraiment passé. Mais les autres, inchallah, quand on traitera, on donnera inchallah 10 minutes, un quart d'heure pour le temps, inchallah. Sinon, vous pouvez poser vos questions, inchallah, dans de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Hein. Vous pouvez poser vos questions sur Aslama, dans la rubrique où on a ouvert pour ce cours-là. Il y a une rubrique hein, où on a annoncé ce cours-là. Donc, vous pouvez annoncer, Inch'Allah, que ce cours sera, Inch'Allah, on va essayer de garder chaque jeudi, si Allah Azzawajal nous donne de la force, il nous donne du temps. Ces gens-là, ils croient qu'on n'a pas de responsabilité ailleurs. Wallah, Al-Azim, on a énormément de responsabilités, qu'Allah nous donne juste de la baraka dans le temps. On écrit des ouvrages, on est des responsables d'associations, on active dans des mosquées. On a énormément, on est des responsables du site arabophone, deux grands sites arabophones dans le monde, l'Abdoubaïf, ainsi que le frère Sidi Raz, qui est avec nous. On a de lourdes responsabilités dans des sites et croit qu'on n'a rien à faire que de venir répondre à des questions. Donc c'est un grand sacrifice qu'on le fait et on le fait avec amour à nos frères. C'est une responsabilité, c'est un pacte qu'on a donné à nos chouyours de transmettre à cette Oumma, Inch'Allah, ce grand khayr. Qu'Allah nous facilite. Jazakallahu khayran. Et n'oubliez pas dans vos duas. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.